commencer à prier pour la famille. Puis, j'ai quelque chose de personnel. J'aimerais qu'on, si vous pensez la semaine prochaine à prier pour mon père, il est ici, mais il commence les traitements de radiation la semaine prochaine. Alors, si vous pouvez prier pour lui, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, j'aimerais, avant de commencer, juste demander à Dieu de nous conduire. Merci, Père, pour cette église. Merci pour les hommes que tu as amenés ici ce matin. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Et Père, je te prie que tu nous aides à mettre en pratique la parole, à ne pas oublier ce que tu nous enseignes. Aide-nous ce matin, Père, à comprendre ce que tu as pour nous. C'est au nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors, aujourd'hui, je voulais parler du leadership, pas parce que je suis un expert en leadership, mais parce que je crois que c'est un sujet qui est vraiment mal compris en dehors de l'Église et dans l'Église aussi. Je vous donne comme mot, juste pour vous faire réfléchir à ce que le monde pense de leadership. On pense le leader, c'est le boss, c'est le grand boss, c'est le ceci. Puis, je vous donne un mot en français qui existe en anglais aussi. Si je dis le mot surintendant, c'est quoi? C'est quoi un surintendant? Un foreman, c'est un boss, hein? C'est quoi le mot intendant? Un intendant, c'est qui? OK, mais l'origine du mot intendant, c'est en anglais, on dirait c'est le mot steward, stewardship. C'est quoi ça? Voyez-vous, on a de la misère avec ça. Oui, allez-y. Non. Ça commence à aller mieux. C'est quelqu'un qui est responsable. Non, attendez un moment. On va essayer de faire ce que ça veut dire. Oui, allez-y. L'homme de confiance du patron à qui le patron a confié un bien précieux. Et il veut que ça fleurisse. OK? Mais nous, on a changé ça. Surintendant, c'est le boss, c'est le foreman, c'est le patron, c'est le grand boss, c'est le ceci. Dieu, Jésus-Christ, nous a donné un parabole en Matthieu 25, 14 à 30. Je ne vais pas le lire, vous le connaissez, le parabole des talents. Puis malheureusement, en français aussi, on pense que les talents, c'est juste les personnes talentueuses. Puis talent, il dit, patron, j'ai travaillé fort, ça fait des années que tu es parti, j'ai investi, j'ai travaillé fort, puis voici 500 000 piastres. J'ai doublé ton argent. Qu'est-ce que le patron dit? Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as fait ta job. L'autre, il vient, il dit, tu m'as donné 100 000 piastres, j'ai fait 100 000 piastres avec. Bien fait, bon et fidèle serviteur. L'autre, il dit, tu m'as donné 50 000 piastres, puis je savais que t'es un gars assez méchant, puis si j'arrive pas à faire quelque chose, puis si je le perds, ça va aller mal, donc je l'ai caché, puis j'ai rien fait. Puis le gars, qu'est-ce qu'il a dit? T'es un paresseux. T'as rien fait avec ce que je t'ai donné. En plus, le gars, il accusait le patron de mauvais caractère pour couvrir le fait que lui est un paresseux. OK? Il a pas dit bon et fidèle serviteur. Il l'a jeté dehors, là où le monde est malheureux. Puis les dents claquent ensemble. OK? Maintenant, Dieu nous a chacun de nous confié quelque chose. Un paquet de choses. Il nous a confié une vie. On est tous vivants ici. Il n'y a pas de mort parmi nous, à date, dans cette salle. Collectivement, la moyenne des gars ici ont 45-50 ans. Donc, il y a 2500 ans de vécu parmi nous. C'est des années que Dieu nous a données pour servir, puis il y a peut-être 2000-2500 ans qui nous restent collectivement à travailler pour lui si le Seigneur ne revient pas avant. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il nous a confié nos femmes, nos enfants, notre santé, notre travail, nos intérêts, nos forces, notre intellectualité, nos faiblesses, notre personnalité. Il a tout confié ça pour le bien de l'Église, mais dans quel but? C'est quoi la grande mission qu'il a donnée avant qu'il soit parti? Faire des disciples, OK? Matthieu 28, 18 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, moi, je suis le boss. Il n'a pas dit, vous êtes les boss. Il dit, c'est moi le boss. Je suis avec vous, là. Okay? Il dit, en allant, c'est un peu mal traduit en français, c'est l'impératif, allez-y, mais le commandement, c'était pas d'aller. Le commandement, c'est en allant, faites de toutes les nations des disciples. Le commandement, c'est de faire des disciples. C'est pas juste allez-vous-en. Le commandement, c'est faire des disciples. En allant, faites des disciples. Puis un disciple, c'est pas juste, je te donne les 5 pas vers le ciel, puis tu acceptes le Seigneur, puis je m'en vais vers le prochain, puis je fais les 5 pas vers le ciel, tu acceptes le Seigneur, puis là, les orphelins, ils tombent à droite et à gauche. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Faire un disciple, il dit, comment tu fais pour faire un disciple? Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il dit, moi, je vous ai confié une tâche, faites-le. Alors, avec ça comme arrière-plan, on va regarder aujourd'hui un peu le leadership d'une autre manière que le monde le regarde. Le monde prend le leadership comme un sujet en vogue. En 2006, quand j'ai préparé ceci, et à propos de cela, Jean-Louis était bien fin, parce que j'ai envoyé ceci. Ça, j'ai déjà enseigné à Longueuil pendant un vendredi soir et toute une journée de samedi. Alors, j'avais envoyé beaucoup plus que ce que vous allez entendre ce matin. Puis Jean-Louis a dit, j'ai dit, Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses que le monde devrait avoir? Il dit, raccourci à ceci. Donc, c'est raccourci. Donc, c'est correct. Mais, le leadership, c'est un sujet en vogue. En 2006, quand j'ai préparé ça, selon Winston et Patterson, des universitaires aux États-Unis, il existait plus que 26 000 articles sur le leadership. 26 000. Le monde veut tout être des boss. Ça attire. Je veux savoir comment être le boss des autres. Je veux savoir comment gérer les autres. Je veux savoir comment les faire ce que je veux. Ils ont écrit, Winston et Patterson, ils ont essayé de ramasser ce que tout le monde disait puis condenser ça dans un article pour définir le leadership. C'est devenu un article très érudit, dur à lire, de 60 pages. Et c'est un sujet populaire parce que le monde aime être en charge, on aime dominer. Mais le vrai leadership, celui de l'intendance, celui de prendre soin des biens du boss, n'est pas là. Je veux parler aujourd'hui d'une définition de leadership. On peut prendre soin des besoins du boss dans ma vie. Je n'ai pas besoin de leadership, j'ai besoin simplement d'être un disciple de Jésus-Christ. Quand je commence à être leader, c'est quand quelque chose me tient à cœur, assez, puis c'est trop gros pour moi. OK? C'est trop gros pour que je le fasse tout seul. Alors, ça prend au moins 2. Ça prend peut-être 3, ça prend peut-être 300, ça prend peut-être 30 000. Mais quand c'est trop gros pour moi, là, ça commence à être le leadership. Ah ouais, les gars, on va charger ce camion. Ah ouais, les gars, c'est le leadership. OK? Mais il faut que les autres gars, ils veulent charger le camion, parce qu'ils veulent pas charger le camion, ils vont pas le faire. OK? Alors, le leadership, c'est comment tu fais pour les faire embarquer dans ça. Et c'est, donc, je prends comme définition aujourd'hui, c'est un processus d'influencer, le mot influence, un groupe organisé ou un groupe par des moyens légitimes. Je parle pas des fusils ici. Saddam Hussein, il faisait arriver des choses, mais j'appelle pas ça le leadership dans la définition que je vous donne aujourd'hui. Légitime vers l'accomplissement d'un but commun. Alors, gardez ça ensemble. Notre but commun, c'est de faire des disciples. De ça, on a un paquet de choses à faire ensemble. Comment est-ce qu'un chrétien peut faire avancer ces choses-là? Je fais un engagement aujourd'hui de vous aimer assez pour essayer de dire ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et j'aimerais demander de vous un engagement de mettre en pratique la parole. Pas ma parole, mais la parole de Dieu. Jacques 1, 22, 24 nous dit, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez, on peut venir à l'église dimanche matin, on peut lire la parole de Dieu à la maison, on peut faire un paquet de choses, puis on devient comme quelqu'un qui Celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Surtout les hommes, peut-être les femmes, ça c'est sexiste un peu, mais aiment passer plus de temps devant les miroirs. Mais il faut pas qu'on ignore le miroir assez qu'on rend les autres malheureux. OK? Et il dit, quelqu'un qui regarde la parole de Dieu, oh oui, ça me parle. Puis, 5 minutes plus tard, on l'a oublié. Ou celui qui entend le pasteur, oh, ça m'a touché. Puis ce chemin de retour à la maison, il est déjà en train de penser à d'autres choses. C'est quelqu'un d'oublieux. Alors, je demande, mettez en pratique la parole de Dieu. On se borne pas à écouter. Parce que Jacques 4, 17 dit, celui qui sait faire le bien, qu'il le fait pas commet un péché. C'est grave. Celui qui sait faire le bien, ne fait pas commet un péché. Leadership et gestion. On a un peu parlé de ça tantôt quand on a parlé de boss. La définition classique du leadership versus gestion, puis je pense pas qu'on peut les séparer, parce que veut pas, si on doit influencer le monde d'aller vers un but commun, il y a aussi, il faut être capable d'organiser ce but commun quand il y a assez de personnes ou ça prend un bout de temps, il faut être capable de planifier, etc. Mais un gestionnaire, généralement, on dit, il maintient le statu quo par le contrôle. C'est quelqu'un qui met en place des systèmes pour contrôler. Et un leader, c'est quelqu'un qui fait arriver des choses par son influence. Okay? Un leader, c'est quelqu'un qui dit, on fait ça aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui, on ouvre l'église, on la nettoie, on prend soin de tout. Ça, c'est la gestion. Mais l'église va embarquer sur X choses de nouveau. Ça, c'est le leadership. Et c'est aller faire avancer le changement. Puis ça prend les deux. Il y a des personnes qui font du remue-ménage, mais derrière eux, ils laissent pas mal de turbulences. Ben, c'est parce qu'ils aiment pas. Une partie du leadership qu'on va voir, c'est aimer les personnes dans l'organisation. Ils aiment pas les personnes dans l'organisation. Ils aiment leur propre accomplissement et faire avancer des choses plus qu'ils aiment les personnes dans l'organisation. Et un leader peut pas faire ça. Un leader doit aimer les personnes dans l'organisation aussi. Alors, selon Deming, il dit management égal, leadership, on peut pas gérer si on n'est pas un leader, puis on ne peut pas faire autre chose. Selon Dieu, leadership égale responsabilité. On le voit dans les écrits de Paul, et on va le regarder tantôt, mais en Actes chapitre 20, versets 26 à 30, je sais pas si vous vous rappelez quand Paul revenait sur son troisième voyage missionnaire, puis il revenait vers Jérusalem, puis le monde disait, vas-y pas, tu vas te faire avoir. Mais il disait au revoir à chaque personne, puis il s'en allait vers Jérusalem, puis arrive sur la côte, proche d'Éphèse. Et il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse, puis il leur parle pour la dernière fois. Puis c'est intéressant ce qu'il leur dit. Actes 20, 26 à 30. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, pas pour dominer sur l'Église, mais pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Comment je sais que c'est l'Église du Seigneur? Parce que lui a versé son sang pour cette église-là. Donc il dit, vous les anciens, c'est à vous de faire ça. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Petite partie du paragraphe, mais il disait toujours, vous êtes responsables des personnes, vous êtes responsables. On est des intendants. Un surintendant, c'est un intendant de plus de choses. Mais on est des intendants. On n'est pas des boss. Dans nos familles, Dieu nous a dit aux hommes qu'on doit être le chef du foyer. Ça ne veut pas dire qu'on domine sur le foyer. On doit aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que Christ a dominé sur l'Église? Philippiens 2, 5 à 11 nous dit qu'il était là. Il s'est réduit jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix où il est devenu odieux afin que Dieu l'élève après et tout ça dans le but de nous attirer vers lui. Alors nous, comme mari, comme leader, notre job, c'est pas de dominer sur la famille, c'est qu'on doit prendre notre famille comme une responsabilité qui nous appartient. Le leadership, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire du pasteur. C'est pas l'affaire des anciens. C'est pas l'affaire de mon boss au travail. C'est l'affaire de tous. Ce matin, il y a eu des personnes qui ont mis la salle ici. Il y a eu des personnes qui ont préparé dans la cuisine. Il y a eu des personnes qui, dimanche après dimanche après dimanche, enseignent en haut. Il y a eu des personnes qui, dimanche après dimanche après dimanche, sont dans le parking quand je viens avec l'auto pour que je me stationne comme il faut. C'est des personnes qui prennent leur tâche, et dans leur tâche, ils prennent leur responsabilité et ils sont des leaders dans ce qu'ils font. Je vous vois là tous les dimanches, puis il y a une équipe autour de vous, puis des fois, c'est pas beau dehors, il fait froid, il fait tout, mais vous êtes un leader dans la responsabilité que Dieu vous a confiée. Et c'est ça que Dieu demande de chacun de nous, c'est de faire ce qu'il nous a confié de la bonne manière. Ça découle des deux plus grands commandements que Dieu nous a donnés. C'est quoi les deux plus grands commandements qu'il nous a donnés? Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est intéressant, Coos et Posner qui ont écrit un livre sur le leadership qui est bien connu. Puis, à ce que je sache, en tout cas, le livre n'est pas du point de vue chrétien. Je ne sais pas si Coos et Posner sont chrétiens ou non. Mais c'est intéressant qu'ils écrivent un livre, ça, des paix, parlant du leadership. Et à la fin, ils disent, la base du leadership, c'est l'amour. Il faut que le leader soit en amour. Écoute, ça, c'est avec l'organisation qu'il... dans lequel il est leader, avec les personnes dans cette organisation et avec les personnes qui vont profiter des biens et des services et des choses que font cette organisation. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? S'aimer les uns et les autres. Alors le leadership, c'est toujours vers l'extérieur. C'est toujours je prends soin d'eux. Je m'occupe des affaires des autres. Je suis l'intendant des autres. Je suis celui qui donne, celui qui voit au bien d'eux. Dans ce sens-là, vous avez vu une mère avec un nouveau-né? Une mère qui allaite avec un nouveau-né? Qu'est-ce qui consomme la passion de cette mère-là? Son enfant. Son enfant pleure, son enfant rit, son enfant... N'importe quoi que l'enfant fait, ça consomme. Elle est là pour le bien de son enfant. Un leader, notre tâche, c'est d'être là pour le bien de ceux pour qui on est responsable. Alors, il y a deux principes leadership réussi. Ceci, ça vient d'un... Ça sort d'un livre où on a fait plusieurs études, puis je vais sauter un peu parce que je vais vous garder trop longtemps. Mais ça... Un livre on a fait l'étude de plus que 1000 compagnies, et ça s'appelle Good to Great. Plus que 1000 compagnies qui sont parties d'un certain niveau, puis tout à coup, ils ont monté. Alors, c'est pas dans l'église, mais quelqu'un disait, c'est quoi qui fait en sorte que ces compagnies-là, ils allaient comme ça pendant des années, puis tout à coup, ils montent. Puis, on s'est même pris comme critère que c'est pour pouvoir les évaluer, que c'était des compagnies qui était établi depuis un bout de temps. Donc, c'est pas une nouvelle technologie, c'est pas Apple qui sort du bois, là. C'est une compagnie établie. On la regarde, elle doit être publique pour que ça soit édité, etc. Puis, elle doit performer au moins deux fois plus que toutes les autres compagnies ont performé pendant une période de 5 ans. Alors, le gars qui a fait cette recherche, c'était juste pour avoir une base. Puis, il s'appelait Jim Collins. Puis, il a envoyé une équipe de personnes pour analyser ces compagnies-là, ils ont trouvé 1013 compagnies. Et il dit, allez trouver les raisons pour lesquelles tout à coup ces compagnies sont parties à fleurir. Puis revenez-moi pas avec la notion facile qu'ils ont changé de boss. Et je veux savoir la vraie raison. Ils ont étudié pendant 5 ans de temps, ces compagnies-là. Ils sont revenus, puis ont dit, malheureusement, on doit vous dire, c'est le boss. C'est le boss qui a fait la différence. C'est quoi qu'il faisait la différence? Donc, dans ces 5 ans, ils avaient analysé les caractéristiques, etc., des boss. Et ont trouvé que, sans exception, dans les 1013 compagnies, c'est des personnes qui avaient 2 buts principaux. La passion pour ce que faisait l'organisation pour laquelle il était responsable et une humilité personnelle qui faisait en sorte qu'il s'oubliait pour que l'organisation aille de l'avant. Souvent, on a la passion pour que quelque chose arrive, puis on a de l'orgueil qui va avec. On n'est pas intendant. Ou des fois, on est humble, mais on n'a pas de passion, on est paresseux. Je vais retourner dans ma vie, vous parler de 2 événements parmi d'autres qui m'ont marqué. Et en dehors de l'Église, mais ça m'a fait réfléchir de où je me trouvais devant Dieu. En 1990, j'ai pris une nouvelle job pour une compagnie qui appartenait au Bankman, qui n'existe plus, mais en tout cas, pour rentrer dans la compagnie, j'étais jeune, et on voulait me donner un poste de dirigeant, donc ils m'ont fait passer un examen avec une psychologue industrielle. Ça a duré longtemps, c'est parti de 7h le matin, c'était 2h30 de l'après-midi quand tout était fini, puis j'ai eu la job. Mais elle m'avait dit, quand elle a donné l'examen, elle dit, si tu as le job ou non, peu importe, dans mes responsabilités personnelles, je dois te dire qu'est-ce qui est sorti de l'examen. Je viens de t'en parler 3-4 semaines d'ici. Donc, elle est venue me voir, c'est une Madame Desjardins. Elle vient me voir, puis s'assoit avec moi, puis elle passe mon profil, etc. Puis, elle commence sa discussion. Puis elle dit, « Monsieur Bacon, elle dit, est-ce que je peux être franc avec vous? » Oui. « Monsieur Bacon, vous êtes intelligent et paresseux. » OK. Je ravale et je dis, « Comment vous savez ça? » Donc, elle passe à travers les choses. Elle dit, « Il y avait des parties dans l'examen où vous étiez sous stress, où il y avait un timer dessus, il fallait faire des choses. » Et vous avez super bien réussi. Et des places où on vous laissait avec moins de stress et moins de choses, vous avez moins bien réussi. Elle dit, est-ce que c'était facile pour vous à l'école? Oui, assez. Est-ce que vous pensez que vous utilisez au maximum les capacités que vous avez? Elle n'a pas dit que Dieu vous a donné. Je n'aimais pas le dire, mais j'ai dit non. Mais elle dit, j'ai un conseil à vous dire, vous êtes jeune, changez ça. Elle n'était pas chrétienne. Elle est partie, puis j'ai dû dire à Dieu, je m'excuse, je te demande pardon. Tu m'as confié des choses, je fais aussi bien que les autres, peut-être un peu mieux, mais je ne fais pas l'effort pour faire valoir ce que tu m'as donné. J'ai eu des parents merveilleux, j'ai eu des bonnes études, j'ai grandi dans un pays, dans des pays de liberté, j'ai eu une femme qui m'aime énormément, j'ai des bons enfants, j'ai absolument tout. Puis je ne redonnais pas à la mesure qui m'avait été donnée. Et la Bible dit à qui beaucoup sera donné, beaucoup sera redemandé. Ça, c'était une expérience pour dire, j'avais pas cette passion pour avancer. Donc, est-ce que je réussis très bien maintenant? Je ne sais pas. Mais ça m'a mis à pousser un peu plus fort et mettre des cellules un peu plus serrées et faire un peu plus attention et dire qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Une autre fois qui est venue, c'était 2005 ou 2006, quelque chose de même. J'avais pris un examen par Internet, un autre genre d'examen, voir quel style de leader que j'étais. Et puis, pas un chrétien encore, puis impersonnel sur l'Internet, mais c'était bien structuré par Jim Collins, justement. Puis, dans ça, il y a plusieurs niveaux de leadership que Collins définissait, leader 1, 2, 3, 4 et 5. Niveau 4, c'est un gestionnaire compétent, un exécutif compétent. Un niveau 5, c'est quelqu'un qui fait arriver des choses, qui prend à la fois la passion pour l'organisation et le désir intérêt de soi et l'humilité. Dans les résultats, j'étais à niveau 4 et un non-chrétien, simplement par le fait que je prenais mes examens et puis ça pose des questions. Ça me disait en effet, tu n'es pas assez humble, tu ne mets pas les autres devant toi. Pas que je me pétais les bretelles, mais ma patience n'était pas de faire arriver les choses que Dieu m'a confiées. Pas si ça m'affectait. Puis il fallait venir au point de dire, Seigneur, je suis ton serviteur, puis si je suis ton serviteur, je dois m'oublier. Puis vraiment m'oublier. Alors ces deux choses-là m'ont affecté. Je continue. Des qualités les plus recherchées dans un leader, Coos et Posner ont fait des recherches, trois sondages faits en 96, 95, 2002 dans 10 pays, donc c'est pas attaché à une culture quelconque. Ils ont choisi parmi les 20 caractéristiques, ils ont mis 20 caractéristiques qui ont été choisies par plus que 50% des répondants. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé que les personnes voulaient le plus voir dans les leaders? La chose numéro un, c'était la crédibilité. Si tu ne crois pas le messager, tu ne croiras pas le message. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre crédibilité? Je vous pose la question. Oui? Il y a quatre choses que lui a trouvées, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a être honnête, mais il y a vivre honnêtement. Être honnête, il y a des personnes qui parlent d'honnêteté, puis leur vie ne reflète pas leur parole. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, on a un mot qu'on n'aime pas, c'est l'hypocrisie. OK? Il y a des personnes qui ont des bonnes intentions, puis promettent des choses. Puis on a des bonnes intentions. Mais on promet trop à la légère. Puis ces choses-là n'arrivent pas. Alors, on perd notre crédibilité. Il y a des personnes qui exagèrent pour impressionner. C'est un mensonge. Vous voyez, la crédibilité, mais la crédibilité, ça s'établit par une série de répétitions du fait que je fais confiance à. Puis ça prend pas beaucoup pour enlever cette confiance. Alors, si on veut influencer pour qu'on aille de l'avant, il faut que comme leader, on soit transparent, il faut qu'on soit intègre, il faut que les personnes aient confiance que quand ça va mal, on va pas les abandonner, au contraire, on va travailler avec eux, puis on va être toujours là, puis on va être dans la brèche. Ça veut dire qu'on pleure avec ceux qui pleurent, on réjouit avec ceux qui réjouissent, c'est biblique encore. Si tu crois pas le messager, tu crois pas le message. Le secret fondamental du leadership, je vous l'ai dit tantôt, Coos et Posner, c'est l'amour. C'est l'amour avec les personnes qui font le travail avec l'organisation et avec les personnes qui profitent de ce que fait cette organisation. Alors, si on amène ça à cette église-ci, c'est quoi ça veut dire d'être en amour comme leader avec cette église-ci? Puis je parle pas, je regarde pas juste Normand comme leader. Chacun de vous ici, vous êtes des leaders, là. OK? Je parle pas de statut de, je parle d'influence pour faire arriver ce que cette église-ci a comme mission commune. C'est quoi notre mission commune? Faire des disciples. C'est quoi que nous avons à faire? Faire des disciples. Chacun de nous, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui fait des disciples? Est-ce que je suis un père qui fait un disciple de mes enfants? Est-ce que j'influence? Est-ce que à l'église, quand je stationne des autos, puis les visiteurs s'en viennent, puis ils voient quelqu'un qui stationne les autos, ça fait partie de faire des disciples. Est-ce que quand on enseigne, ça fait partie de faire des disciples? Est-ce que quand on est seul, puis on prie, ça fait partie de faire des disciples? Quand on est seul, puis on ne prie pas, ça ne fait pas des disciples. Quand on dit, on va être là pour la garderie, puis on arrive 20 minutes trop tard, ça fait pas des bons disciples. Vous voyez, chaque chose qu'on fait, c'est quelque chose où on doit être en amour avec le Seigneur, avec son organisation, avec les personnes dans l'organisation et avec la mission de l'organisation. Ça commence par le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta pensée. C'est aimer Dieu assez pour avancer sa cause et aimer ceux à qui il a confié des soins. La gestion du changement, j'ai toute une série là-dessus qu'on a ôté de ceci parce que vous serez très tanné à 8 heures ce soir si j'avais passé dedans. Mais un leader, puis on pourrait le faire peut-être une autre session quelque part à un moment donné. Il y a des étapes pour gérer le changement qui sont très utiles. Comment tu présentes, qu'est-ce qu'on a à faire, comment tu rassembles le monde ensemble, comment on célèbre des petites victoires, comment on ancre le changement dans les comportements, etc. Il y a des techniques pour ça. Mais si on apprend les techniques, mais on n'apprend pas à s'humilier devant celui de qui on est intendant, on ne sera pas leader. On va être des gestionnaires, on va être des boss, on ne sera pas des leaders. Alors, gestion du changement exige à la fois l'influence et la gestion. On va parler un peu des caractères de leader. Le changement, c'est au cœur du leadership. Quand on dit « on va faire quelque chose » et les autres embarquent, là, il y a tout un processus pour y arriver. Une couple de questions qu'il faut se poser, parce qu'on a chacun des idées. Je suis certain si je distribuais des feuilles ici, puis d'ailleurs, ça peut être polarisant, donc je ne veux pas le faire, mais si je distribuais des feuilles ici, puis je disais à chacun « c'est quoi les 3 choses spécifiques que vous aimeriez que l'Église fasse dans l'année prochaine? » On a 60 personnes ici, il y aurait au moins 60 idées. Il y aurait une communauté d'idées de certaines choses, puis il y aurait des idées éparpillées, puis à un moment donné, on n'est pas capable de tout faire. Alors, ça demande, pour avoir une vision commune, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les choses les plus importantes. C'est quoi qui est les plus importantes? C'est là où vient tout le fun, d'écouter du monde, de savoir c'est quoi les idées, de les gérer, puis de mettre un focus, puis de dire non, ça on le fera pas aujourd'hui, ça on va le faire dans 2 ans, puis prioriser, etc. Mais on peut pas tout faire, alors une partie du leadership, c'est de faire moins, mais de faire mieux. OK? De faire moins, puis de faire mieux. Puis dans... Je parle pas de faire moins. Je veux dire, faire moins de choses, mais de faire mieux. De faire les choses les plus importantes. Dans ma vie à la maison. Moi, j'aime ça construire des haut-parleurs. J'aime ça bricoler avec mes mains. J'aime ça bricoler dans la maison. J'aime ça être avec mon épouse. J'aime ça être avec ma fille, ma petite fille. J'aime ça mon travail. J'aime ça ce que je fais à l'église. Mais il y a une chose qui manque. C'est quoi? C'est le temps. J'ai pas le temps de tout faire. Alors, je dois faire les choses prioritaires. Et c'est là où on doit demander la sagesse au Seigneur de nous aider à comprendre c'est quoi les priorités. Un leader, ça doit être un exemple d'engagement. Mon père est ici, puis s'il n'était pas ici, je dirais la même chose. Donc, ferme tes oreilles ou ferme ton appareil, là. Mais quand on a construit l'église de Valleyfield, puis c'est pas toujours la place. Dans une église de cette grandeur-ci, je m'attendrais peut-être pas à ça, mais l'église de Valleyfield était plus petite. Il y avait un homme qui savait comment faire la construction, qui est venu nous aider. Et il y avait mon père qui savait comment faire la construction, parce qu'il avait fait ça en Afrique pendant des années. Il y avait d'autres hommes qui bricolaient, mais vraiment, l'homme qui était venu nous aider et mon père ont fait la plupart de la construction de l'église. Et il prêchait les dimanches, et il donnait ses matins et soirs, et mercredi soir, et il s'amenait au bout, puis il faisait, pas pour la gloire, si je n'avais pas parlé, vous ne le saurez pas, mais parce que c'était nécessaire pour le bien de Dieu, pour le bien de l'œuvre de Dieu. Les personnes qui sont des leaders doivent être des exemples d'être engagés. Madame Desjardins, ce qu'elle était en train de me dire dans le fond, c'est « Marc, tu n'es pas engagé. » Je vous demanderai dans vos vies, c'est combien qui va compter quand Dieu va mesurer ce que vous avez fait avec les talents qu'il vous a donnés. Vous savez, à la fin de nos vies, comme chrétiens, il existera deux genres de jugements. Un jugement du grand trône blanc qui est pour les non-chrétiens, puis un jugement devant le béma de Christ. Le béma, c'est le tribunal de Christ. Et le mot, c'était utilisé pour un endroit où on jugeait les athlètes qui passaient devant. Vous avez déjà vu à la télévision quand le monde fait du patin artistique, puis là, ils disent, il y a un 9.0 ou tel et tel dans le patin artistique ou la gymnastique. Ben, ces juges-là sont dans le béma. C'est eux autres qui jugent comment on a accompli. Puis, Paul y parlait que chacun de nous va passer devant le tribunal de Christ. On a vécu 80 ans sur terre. Combien de temps qu'on va passer face à face avec le Seigneur dans la redevabilité? Il y a toute l'éternité, lui. Je suis pas certain que ça se passe dans une journée. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de larmes au ciel. Ça dit qu'il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Je veux pas avoir honte. Est-ce que vous allez avoir honte? Je veux pas avoir honte. J'aimerais bien lui donner un talent, deux talents, trois talents qu'il m'a donné. Et dire, quelque chose est venu avec. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que je me concentre sur ce que Dieu veut que je fasse. Il faut que ma vie soit pas une vie qui m'appartient, mais ça appartient au Seigneur, puis vraiment appartient au Seigneur. C'est pas l'entrée du ciel. L'entrée du ciel, ça a été garanti par le sang de Christ. Ça, c'est fini. Ça, c'est derrière nous. Gloire à Dieu. C'est pouvoir regarder mon Sauveur dans sa face. Et que quand il me tend les mains qui sont meurtries, il puisse dire, bon et fidèle serviteur. C'est ça qu'on veut tendre. Et pour faire ça, il faut qu'on soit engagé à son service. Et engagé veut pas dire que chacun de nous va devenir missionnaire, que chacun de nous va devenir pasteur, que chacun sera ancien. Mais ça veut dire que chacun va être son serviteur. Que là où je suis, dans mon travail, je fais le maximum que je peux pour refléter Jésus-Christ, pour parler aux autres de Jésus-Christ, pour vivre dans ce qu'il m'a donné à faire. Alors, un caractère idéal du leader, c'est, j'en ai parlé tantôt de Jim Collins, humilité et détermination. Le leader doit s'entourer des personnes compétentes qui veulent le bien de l'organisation. Je préfère avoir une petite équipe engagée qu'une grosse équipe désengagée. Comme gestionnaire au travail, j'ai toujours favorisé avoir des petites équipes qui travaillent fort parce qu'ils sont heureux. Si quelqu'un ne peut pas être heureux sur l'équipe, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la bonne équipe. Pas pour les manipuler, ou bien parce qu'on ne fait pas la bonne chose. Mais sinon, si tu veux, combien de personnes qu'il y a dans le hockey? Il y en a 5 sur la glace, puis un goaler. On met pas 18 sur la glace, on met 5 plus un goaler, parce que c'est ce qui fonctionne. Alors, tu veux avoir 5 engagés. Puis on dit, ah, les gars, ils n'ont pas travaillé fort ce soir. Ben non, ils sont pactés hier soir. Le problème, c'est pas sur la glace. Le problème, c'est qu'hier soir, ils s'en foutaient de demain sur la glace. Ils pensaient à leur bière. Puis le lendemain sur la glace, ça va mal. OK? C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce que leur cœur n'était pas là le lendemain, c'est parce que la nuit précédente, ils pensaient à leur bière. comme chrétien, je dois être engagé comme leader chrétien, cherche à m'entourer d'un groupe de personnes qui veulent faire la même chose, puis qui sont engagées. S'il y a des personnes qui s'engagent dans la garderie, qui s'engagent. S'il y a des personnes qui s'engagent pour stationner, qui s'engagent. S'il y a des personnes qui s'engagent pour nettoyer le plancher, qui s'engagent. S'il y a des personnes qui s'engagent pour visiter les malades, qui s'engagent. C'est important. Comprendre les forces et les faiblesses de ceux qui dirigent, de ceux qu'on dirige. C'est pas tout le monde qui est des surhumains. Puis tout le monde a leurs propres affaires à la maison. Tout le monde a des enfants qui sont malades. Tout le monde a des journées qui vont mal. Un bon leader, c'est quelqu'un qui parle d'abord de la personne avant de parler de la tâche. Et vous allez trouver que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais pardonnez mes 56 ans. Ce que j'ai observé, c'est quand on parle à des personnes d'abord et de la tâche ensuite, les personnes travaillent de leur cœur. Okay? Alors, j'ai déjà vu des boss, j'ai déjà eu des boss, j'ai déjà été un boss qui demandait « Où es-tu rendu avec tel et tel? » avant de demander « Hey, c'est-tu la fête de ton garçon aujourd'hui? » Et personne ne se rappelle que tu te rappelles que c'est la fête de leur garçon aujourd'hui. « Hey, il doit avoir 13-14 ans, là. » Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Comment tu fais pour faire ça? Tu peux manipuler à faire ça, mais dans le fond, c'est pas ça que tu fais. Si tu t'intéresses vraiment à la personne, tu sais que cette personne-là est fière de son garçon de 14 ans, parisien. Ouais, tu sais, il a 14 ans, mais il retourne dans le monde un peu. Puis, bon, là, tu vas ouvrir une place où tu pourras travailler avec la personne. Tu as aimé la personne. Et ensuite, quand tu vas pour faire la tâche ensemble, on le fait ensemble. Hein? Si on aime les personnes, on s'occupe d'eux. On prend les actions qui augmentent les forces et minimisent les faiblesses de l'organisation. On protège l'organisation. Si c'est notre famille, on la protège. Nous, on a vécu sur la rive sud à Montréal et nos enfants allaient à l'école, à Emmanuel Christian School, dans West Island, sur le boulevard Saint-Jean. Et c'était loin. Et mon épouse a fait sa partie du leadership, aller conduire tous les jours à travers le pont Mercier. Ceux qui savent le pont Mercier, vous savez que mon épouse a travaillé pendant une quinzaine d'années, parce qu'il y a deux enfants, à les trimballer à travers le pont et de retour et faire face au trafic à tous les jours, parce qu'on pensait que l'école chrétienne était une bonne chose pour eux. Mais nos enfants nous demandaient, quand ils commençaient à être ados, est-ce qu'on peut déménager sur l'île de Montréal? Parce que nos amis sont là. Daniel et moi, on s'est regardés. Un, ça coûtait plus cher sur l'île, mais on aurait pu prendre une plus petite maison. Mais l'autre raison qu'on voulait pas être sur l'île, c'est parce que c'était trop facile le transport en commun, puis on voulait savoir où ils étaient, on voulait les protéger pendant leur adolescence. Donc on est resté sur la rive sud, puis on a continué à traverser le pont Mercier. C'était un choix délibéré de protéger ceux que Dieu nous avait confiés. Maintenant, il y a bien des enfants sur l'île que ça va bien. Mais on est resté sur la rive sud parce qu'on voulait les entourer d'une clôture invisible qui s'appelait « Pas de transport en commun » qui fonctionne bien pour vous amener où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. On doit être discipliné. On peut pas mettre des plans en action si on n'a pas un peu de discipline. Discipline, c'est pas compliqué, c'était un disciple. Ça vient du mot disciple. Alors, discipline, qu'est-ce qu'on doit faire comme disciple? Discipliner avec notre santé, discipliner avec nos intérêts, discipliner avec la manière qu'on dépense notre argent, discipliner avec la manière qu'on dépense notre temps, discipliner avec nos mots. La Bible parle de se tenir sous le contrôle. Puis pour un chrétien, ça devrait être de plus en plus facile parce que c'est une partie du fruit de l'esprit. On est en train de passer à travers le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits de l'esprit. Ça fait toute partie de l'ensemble. Contrôle de soi. Si on n'a pas de maîtrise de soi, quelque part, on est en train de rejeter le travail que fait le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit nous amener vers la maîtrise de soi. Des personnes qui disent, oh, je perds la tête, puis je crie, puis après ça, je suis malheureux. OK. Puis si ça continue après 5 ans, pose-toi des questions, pourquoi tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler? Parce que quelque part, un colérique peut se calmer. OK? Ça peut se faire. Correct dans le temps, je m'excuse si je prends trop longtemps, vous, levez la main ou partez tout simplement. Le leader, il doit être au service de son organisation. J'ai dit assez, les leaders doivent se concentrer sur le bien de l'organisation qu'ils dirigent, sans égard leur propre réussite. On regarde dans le temps Élie. Élie, il y avait quelqu'un qui s'appelait Élisée qui travaillait pour lui. Et Élisée a commencé par être un serviteur. Et un leader doit non seulement commencer par être un serviteur, mais toujours être un serviteur. En 2 rois 3 et 11, quand Josaphat, le roi, cherchait un prophète, mais Josaphat dit, « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui était le grand boss. » Non, c'est pas ça. Il dit qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie avait besoin de se laver les mains, Élisée était là. Il avait été puisé l'eau pour lui donner de l'eau pour laver les mains. Il était un serviteur. Il était un serviteur. Il était au service. Parce que Élie avait une tâche à faire. Il y avait un serviteur. Le serviteur, il disait pas « je veux sa place ». Il dit « je suis au service ». C'est juste après. Quand Élie dit « je m'en vais au ciel », que Élisée dit « je veux avoir ce que tu as ». Puis on voit le service d'Élisée, c'était pas « je veux la place que tu as pour être le grand boss », c'est « je sais que tu as accompli une mission, tu t'en vas, je veux pas laisser un gros vide, puis il y a personne d'autre pour le remplir, je veux remplir le vide ». Voyez-vous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un qui essaie de remplir le vide, puis l'autre, non. Trois valeurs fondamentales. Un leader doit mettre l'exemple sur ce qu'il est devenu. Comment que ma pensée a changé à travers les années? Est-ce que je suis de plus en plus comme Jésus-Christ ou non? C'est pas qu'est-ce que j'ai accompli. Si on pense impressionner Dieu parce qu'on a accompli, lui a créé l'univers en 7 jours avec sa parole. En 6 jours. 7e jour, il dit, je prends off. Okay? On va pas impressionner Dieu par qu'est-ce qu'on a accompli. Mais si on s'est transformé, on s'est laissé transformer, comme Romains 12 ans et 2 nous dit, de laisser transformer l'intelligence, devenir comme Jésus-Christ, et qu'on a fait fructifier les choses qu'il nous a données, c'est ça qui est important. Une autre chose pour un leader, j'appelle ça la loi du pécheur silencieux. Si tu voudrais pas que tout ce que tu fasses paraisse en public, soit écrit dans un journal, que ta femme et les enfants le sachent, fais-le pas. Saint-Esprit le voit. Qu'est-ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est quand on est tout seul. Et Christ il a amené ça plus loin. Il a parlé des pensées, il a parlé des pensées de haine, des pensées d'adultère. Christ a amené ça plus loin et il dit, ça aussi, c'est aussi coupable que l'action. Alors, pour nous, comme personnes qui aspirent à faire ce que Dieu nous a demandé de faire, qui ont des responsabilités devant nous, faisons en action, en parole et en pensée d'être purs. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'un Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est pas qu'on sera pur, mais celui qui est en Christ, il se purifie comme lui-même est pur. Et finalement, j'appelle ça la loi du pierre tombale, la pierre tombale. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale? Ça, c'est un bon exercice des fois. S'asseoir et dire, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit écrit sur ma pierre tombale? Puis après que ça s'est bien écrit, puis que ça a mijoté pendant 2-3 jours, dire, qu'est-ce qu'on écrirait de moi aujourd'hui? Puis après qu'on a comparé les deux, qu'est-ce que je dois faire pour passer de là à là? Des choses pour un leader. Jésus-Christ était le leader par excellence. C'était quoi le but de Christ en venant sur terre? C'était quoi son but? La Bible dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y avait un seul but. Il n'a pas dit, aujourd'hui je fais des miracles, demain je traverse la mer en marchant sur l'eau, le lendemain je fais tel et tel. C'était pas ses buts. C'était des choses qu'il faisait dans le but d'arriver au bout qui était de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire pour faire ça? Il a dû quitter le ciel. Il est venu sur terre. Il s'est mis dans la forme d'un bébé. Il est né, il s'est laissé être sans force comme bébé, il a vécu la vie d'un réfugié, il a vécu la vie d'un pauvre. Il a tout fait dans le but de faire quoi? De me sauver et de vous sauver. Il y avait un seul but. Son leadership, c'était vraiment un leadership d'humilité, mais un leadership de persévérance vers un but. Philippiens 2, 5 à 11 nous dit qu'il faut qu'on ait les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 nous dit, « Ayons-vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Il n'a pas dit, « Hey, je suis le boss de l'univers suprême. Wow, je suis bien. » C'est pas ça qu'il a dit. Sinon, on serait tous en enfer. Il dit, « Je suis Dieu et je vous aime. » Et parce que je vous aime, je veux devenir un de vous. Et parce que je vous aime, je vais vous laisser me mettre sur la croix. Il est devenu un simple homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le leader chrétien doit soumettre son corps comme un sacrifice vivant par le renouveau de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sacrifice vivant veut dire t'es pas ensanglanté, t'es pas mort. Sacrifice vivant, ça peut sentir ça pendant un bout de temps. C'est pas facile. OK? D'être au service, c'est pas facile. Christ n'a jamais dit que la vie serait facile. Si elle est facile, c'est parce qu'on n'est pas au service. OK? Elle est abondante, mais pas nécessairement facile. Une vie abondante, pas nécessairement facile. Je pense à Johnny Erickson Tada. Vous connaissez Johnny Erickson? Pourquoi que vous la connaissez? Parce que c'est une fille. Moi, je l'aurais jamais connue si elle n'avait pas eu un accident à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, cette fille-là, une belle fille, milieu de l'adolescence, part pour nager, saute dans la mer, cogne sa tête sur une roche, devient quadriplégique. Dieu travaille son cœur et son corps. Là où avant, elle n'était pas consacrée au Seigneur, elle écrit un livre où elle décrit son cheminement à travers tout le deuil de perdre l'utilisation de son corps et à travers la colère avec Dieu et à travers tout. Et ses circonstances n'ont pas changé, mais elle est venue au service de son Seigneur. À partir d'une chaise roulante avec juste une tête qui fonctionne. Elle écrit des livres, elle fait des peintures, elle parle dans des églises, elle a une influence, est au service du Seigneur. Moi, je dirais que Johnny est un leader dans ce qu'elle fait. Mais elle a mis au service du Seigneur qu'est-ce qu'elle avait comme talent. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme don? Un corps brisé. Si elle n'avait pas eu ce don-là, on ne saurait pas qui elle est. Elle serait une femme quelconque dans une église quelconque en train de faire son travail. Dieu lui a donné un corps brisé, puis elle a accepté ce qu'il a donné comme talent, puis elle a fait de quoi avec. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas déraisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le siècle présent, nous dit? C'est la pensée humaniste qui est là. La pensée humaniste dit que l'homme vit pour son plaisir. C'est pour ça qu'on justifie l'euthanasie. Quand tu n'as plus de plaisir, tu as le droit de te tuer. Manifesto humaniste dit clairement que la raison de l'homme, c'est pour son plaisir. Si vous rappelez le vieux catéchèse, qu'est-ce que ça disait? Le but de l'homme, c'est glorifier Dieu. Alors, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le leadership prend l'humilité. Helen Keller qui ne voyait rien, et disait, « Je désire accomplir des tâches grandes et nobles, mais c'est mon devoir principal d'accomplir ces tâches, les tâches humbles, comme si elles étaient grandes et nobles. » Pensez à ça. Les tâches humbles, comme si elles étaient grandes et nobles. Quand vous essuyez le nez de votre petit enfant qui est malade, vous pensez de ça comme une tâche grande et noble? Ça l'est. Vous êtes en train de travailler avec l'enfant pour lui montrer votre amour. Est-ce que le même enfant plus tard, en bonne santé, vous prenez plus de temps devant la télévision qu'avec votre enfant? Alors, peut-être c'est pas la même tâche grande et noble, hein? On prend du temps avec l'enfant. Alors, Helen Keller disait, je désire plus accomplir des tâches humbles comme si elles étaient grandes et nobles. Et Hébreux 6:10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore ses services aux saints. Et encore, je pense à ceux qui sont ici, qui ont servi dans la cuisine, ou ceux qui sont dans le parking tous les dimanches, quand il fait froid, Dieu n'oublie pas ça. C'est les choses qu'il nous donne à faire. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, « Soyons fermes, inébranlables, travaillant tant qu'on peut à l'œuvre du Seigneur. » C'est ça que ça dit? Travaillant quoi? Alors, Paul, il a l'air d'un Japonais. Il était pour l'amélioration continue. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux, ça ne veut pas dire travaillons de plus fort en plus fort, mais ça inclut ça. Ça veut dire que demain, je vais faire mieux que j'ai fait aujourd'hui. Et après-demain, mieux que j'ai fait aujourd'hui. Et après-demain, mieux que j'ai fait aujourd'hui. Je vais prendre comme exemple les premiers Honda qui sont venus en Amérique du Nord. Est-ce que vous rappelez les premiers autos Honda qui sont venus en Amérique du Nord, les CVCC qui les appelaient? Ils rouillaient terriblement, hein? Puis les premiers Nissan, c'était des Datsun dans le temps. Datsun B210, c'était connu que ça pouvait faire presque 50 000 au gallon avec un moteur de 800cc. Tu allais 65 000 à l'heure quand tu avais pédale au plancher pendant longtemps, OK? En descendant à la côte, et puis ça coûtait pas cher, puis ça vibrait, mais en tout cas. Hyundai fait la même chose, ils sont venus avec des ponies, le monde qui avait des ponies en les regardait de travers, maintenant le monde qui a des Écus, c'est quasiment des Mercedes à moitié prix. OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'amélioration continue. Et Paul dit, quand je vois un chrétien, je veux voir cette amélioration continue. Alors, regarde dans ta vie où tu étais il y a 15 ans. Est-ce que tu étais en Honda CVC? C'est correct, c'est comme ça que tu viens comme chrétien. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es rendu un accord de bonne qualité ou tu es toujours un CVCC? Si tu es un CVCC, il faut se mettre à genoux et dire, « Seigneur, je veux être un accord. » Puis ça va être de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Alors, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je vais aller vite parce que je vais vous tenir. Néhémie, leader du changement. Ignorez les diapos, là. Je vais juste parler de Néhémie. Néhémie était quelqu'un qu'on prend comme exemple de leadership parce qu'ils ont accompli beaucoup. En 53 jours, après qu'ils ont commencé à construire un mur qui était délabré, ils ont réussi avec leurs mains et pas de machinerie lourde à rebâtir tout un grand mur de défense autour de Jérusalem. Néhémie a apporté deux choses. Il a apporté des matériaux gratuits et il a apporté sa personne et la permission du roi d'avancer. Il n'a pas apporté de machinerie, il n'a pas apporté d'argent, il n'a pas apporté d'hommes, il n'a pas apporté rien d'autre. Et 53 jours après, ils ont commencé, ils ont fait un travail phénoménal. Et ont fait ça avec le monde autour d'eux autres, qui était tellement proche, qui voulait tellement les attaquer, qu'il y en avait qui devaient se tenir là avec des épées dans une main pendant qu'ils mettaient des briques avec l'autre. C'était grave, OK? Néhémie a commencé pas comme dirigeant des travaux. Dieu l'avait préparé. On va retourner dans le royaume de Perse où il était. Il était l'échanson du roi. L'échanson, c'est quelqu'un qui goûtait à la nourriture avant que le roi goûtait. Ça, c'était son titre principal. Mais l'histoire nous dit que l'échanson était beaucoup plus que ça. L'échanson était l'homme de confiance. Quelqu'un a parlé tantôt, c'est quoi un leader? C'est quoi un surintendant? C'est l'homme de confiance du roi. Pourquoi? Parce que dans le temps, une manière de se débarrasser du roi, c'était de l'empoisonner. Alors, tu voulais que ce soit ton homme de confiance pour que lui-même, il n'y ait pas de poison sur son corps pour glisser ça dans ta nourriture après qu'il te l'a donné. Mais ça faisait plus. Dans le royaume des Perses, les trois positions les plus élevées étaient le roi, le chef des armées et le goûteur. Lui était en charge des trésors du roi aussi. Okay? Alors, oui, il était les chansons du roi, mais il était en charge de ses trésors. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme de confiance. Alors, il était ministre des finances, bras droit du roi. Et ça, c'était un roi qui était assez orgueilleux. Artaxerxès, que l'histoire séculière nous raconte quand il était combattre contre la Grèce. Il a perdu un combat naval, il s'est choqué, il a fait venir des bourreaux, parce qu'il y avait des bourreaux pour battre et torturer du monde. Il fait venir des bourreaux, il fait une grosse démonstration publique où il a dit aux bourreaux de fouetter la mer parce que la mer n'avait pas permis qu'il gagne sa bataille navale. Donc, il a fait tout un show de fouetter la mer parce qu'il était choqué. Okay? Alors, c'est ce genre de gars-là qui est ton boss, puis t'es ton bras droit parce que t'es son homme de confiance. T'as une belle position, tu peux te taire, tu peux rester là à jamais, puis surtout, frustre pas le roi. Et là, un de ses frères, il revient de Jérusalem, que Néhémie n'avait jamais vu de sa vie, c'était juste la ville de ses ancêtres. Et il dit, ça va mal à Jérusalem. Et les murs sont descendus. Ça veut dire que le monde peut piller comme ils veulent. Le monde là-bas sont malheureux. Et Néhémie, il a pris ça à cœur. Il a pris ça à cœur. Et pendant 4 mois de temps, il était malheureux. Quand on voit le calendrier qui était là, pendant 4 mois de temps, il était malheureux. Puis à un moment donné, il avait fait son plan dans sa tête. Puis le roi dit, t'as l'air malheureux. Dans ce temps-là, avoir l'air malheureux devant le roi, ça pouvait être la peine capitale. Pas juste parce qu'il voulait voir des personnes qui souriaient, mais aussi parce qu'il avait tellement peur de complot, parce que c'était une place à complot, que quelqu'un qui avait l'air soucieux, ça se pouvait qu'il soit dans un complot, donc aussi bien s'en débarrasser. Donc, quand un homme de confiance, il a l'air malheureux, tu poses la question. Et Néhémie n'a pas menti, il dit, ça va mal. Mais il dit, j'ai un plan, il dit, j'aimerais que tu m'envoies là-bas pour les aider. Puis j'aimerais que tu demandes les papiers pour le faire, etc. Maintenant, pour Néhémie, c'était pas quelque chose de prestige d'aller là-bas. Il allait de troisième dans le royaume, dans la ville capitale, à être le maire d'un petit village lointain, dans le bois, où il n'allait peut-être pas ressortir.
C'était pas une question d'orgueil, c'était une question de service. Dieu y avait mis sur le cœur, toi, Néhémie, tu as des capacités. Toi, Néhémie, tu as des contacts. Toi, Néhémie, tu es capable. Et Néhémie s'est oublié, puis il l'a fait. Et Dieu a répondu à ça. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il n'a pas dit, « Moi, je suis troisième dans le royaume. Je suis là pour vous faire de quoi? » Il est venu avec ses hommes. Il était protégé par des hommes parce qu'il y avait des bandits en chemin. Il est venu avec ses hommes. Il reste 3 jours, fait le tour de la ville, regarde ce qu'il y a à faire, fait ses plans. Puis là, il dit aux personnes, il dit, « La tâche est grande. Dieu m'a béni. Il a donné les moyens. Il a donné l'oreille du roi. Allons de l'avant. » Et Dieu a béni, et le monde est parti de l'avant. 53 jours plus tard, et pendant ces 53 jours, les personnes aux alentours, ils disaient, on va le compter au roi que vous êtes rebelles, viens nous parler, on va vous attaquer une chose après l'autre. Et pendant 53 jours, ils se concentraient assez que la Bible dit qu'ils ne prenaient même pas de bain pendant les 53 jours. Ça devait sentir bon dans le coin, peut-être pas pour rien qu'à la fin des 53 jours, le monde ne les attaquait pas, mais en tout cas. Mais juste pour dire, il y avait, son leadership a commencé par un acte de s'investir dans ce que son boss voulait. Son boss, c'était Dieu. Son boss voulait que Jérusalem soit reconstruite. Et il s'est investi dans ça, puis il est parti de l'avant. Puis la balance, c'est l'histoire. Et puis quand il a fini avec la chose physique, il a donné un petit repos aux personnes. Puis il a fait lire la parole de Dieu. Puis il y a eu de la repentance. Puis plus tard, on voit que il est retourné dans le royaume de Perse. 12 ans plus tard, il revient, il voit qu'il y a du péché dans le peuple, il y a des personnes qui ont marié des étrangères et des personnes dans le peuple, et qu'est-ce qu'il fait? Pousse ça en dehors encore. C'est un gars qui est concentré sur le bien de son boss. Alors, excuse-moi, ceci n'aurait pas dû être comme ça. Question à réflexion. Puis je vais arrêter avec ceci avant que vous vous endormez. Et avant que je dise des bêtises. Question de réflexion. Dans ma vie aujourd'hui, est-ce que la vision de ce que je veux faire est de Dieu? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Oui, je suis chrétien, je sais qu'il faut dire que c'est important de faire des disciples, mais est-ce que la manière que j'occupe mon temps reflète ça? Est-ce que la manière, ce qui est dans mon carnet d'échecs, reflète le fait que Christ est d'abord? Est-ce que là où est mon cœur reflète que Christ vient d'abord? Est-ce que je suis au service du Seigneur? Est-ce que j'aime son peuple? Est-ce que j'aime son Église? Je parle pas juste de l'église de Gatineau. Je parle de l'église qui est l'ensemble du corps de Christ. Est-ce que j'aime ça? Puis est-ce que j'aime les personnes dans l'église? Est-ce que j'aime mon Seigneur? Est-ce que je communique ma vision personnelle au nom de Dieu? Si on a des choses à faire ensemble, si je suis en charge, je prends le parking encore parce que je le vois tous les dimanches. Je suis certain que c'est pas toujours facile d'avoir des hommes qui sont là, prêts à diriger des autos quand il fait froid. Mais il y en a toujours. Alors, quelqu'un a été fidèle. Quelqu'un a été fidèle. Quelqu'un a pris le téléphone un vendredi ou un samedi à dire, « Es-tu sûr que tu vas être là dimanche? » Puis quelqu'un d'autre, quand il a dit, « Il va être là, il va être là. » Parce que lui aussi a été fidèle. Est-ce que je suis désintéressé? Ça, c'est important. Est-ce que je suis humble? Est-ce que la tâche d'être intendant pour mon patron est plus importante que ma propre personne? Est-ce que mon service est plus important que ma propre personne? Est-ce que Dieu va recevoir la gloire de ce que je fais? Est-ce que je suis malheureux si on ne me dit pas merci? Si je suis malheureux parce qu'on ne me dit pas merci, je dois me poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? C'est bon de dire merci. Mais est-ce que je suis malheureux parce qu'on ne m'a pas dit merci? Alors, ça ne veut pas dire que je sers le Seigneur, ça veut dire que je me sers. Est-ce que c'est Dieu qui reçoit la gloire? Est-ce que j'ai des preuves irréfutables que Dieu appuie la vision? Vous savez, des fois, on commence quelque chose, puis ça semble pas aller. Ça semble pas intéresser le monde. Ça semble pas être quelque chose qui va de l'avant. Bonne question, c'est est-ce qu'il faut le faire? Des fois, c'est mieux d'arrêter quelque chose que de le faire mal. Est-ce que je communique aux autres comment Dieu a béni en démontrant son appui? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est beaucoup fait mention de dire à nos enfants les bienfaits de Dieu, de compter à nos enfants les bienfaits de Dieu. Vous vous rappelez, quand ils ont traversé le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti 12 roches du milieu du Jourdain, ils les ont mis à côté du Jourdain. Dans quel but? Vous rappelez-vous le but? Excuse-moi? Se souvenir, pour qu'un enfant dise, c'est quoi ce tas de roches-là? Puis il dit, ça, ces roches-là, ils sont venus du milieu du fleuve. C'est quand Dieu nous a fait traverser le fleuve. C'est pour les rappeler des bienfaits de Dieu. Est-ce que vous rappelez à vos enfants, est-ce que vous remémorez ce que Dieu a fait de bon pour vous? Une partie du leadership, c'est d'encourager le cœur. Et encourager le cœur, ça se fait bien quand on dit, voici ce que Dieu a fait pour moi. J'ai essayé de condenser le plus gros de 10 heures en 1 heure et quart, alors c'est un peu flou, ça serait mieux si c'était plus long. J'aimerais bien être à votre service, puis j'aimerais bien que le Seigneur nous mette à être à son service. 1 Corinthiens 15, 58. Soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Leadership, chacun de vous et moi, nous avons des responsabilités d'influencer les autres pour l'œuvre de Christ. Une autre fois, quand on n'a plus de temps, peut-être un autre cours quelque part, on va parler vraiment des différentes techniques, etc., d'influence, mais ce que je vous amène aujourd'hui, c'est est-ce que mon cœur est là? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis en amour avec Dieu? Est-ce que je suis en amour avec l'œuvre qu'il m'a donné à faire? Puis est-ce que je suis dévoué à la tâche? Merci.